Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 3 heures d'Ibehesht, 1402 du calendrier iranien, 23 avril 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le programme nucléaire de l'Iran est uniquement défensif et dissuasif et ne vise aucun pays, a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran réitère son soutien à la résistance palestinienne. L'Amérique est le parrain de Daesh, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Et réforme de la justice en Israël, de nouvelles manifestations pour la 16e semaine consécutive. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères réitère le soutien de la République islamique d'Iran à la résistance et au peuple palestinien dans leur lutte pour libérer le pays de l'occupation israélienne. Hossein Amir Abdollahian a fait cette remarque lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général du mouvement de résistance palestinien Djihad islamique, Ziad Nakhaleh. Le ministre iranien a déclaré que Téhéran poursuivrait son soutien à la Palestine jusqu'à la formation d'un État indépendant entièrement palestinien sur la terre historique de la Palestine avec Rots comme capitale. Amir Abdollahian a souligné que la solidarité mondiale avec la nation palestinienne pendant le mois de Ramadan est considérée comme un grand atout pour la Palestine. Pour sa part, Nakhaleh a déclaré que toutes les factions palestiniennes sont unies dans leur lutte pour défendre Rots et la cause palestinienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les États-Unis de parrains de Daesh après que le nouveau candidat à la course présidentielle américaine de 2024, Robert F. Kennedy Jr., a reconfirmé le fait en annonçant la candidature. Ceux qui ont délibérément fermé les yeux sur la vérité devraient écouter ce que Robert F. Kennedy Jr. a dit à propos de Daesh, a déclaré vendredi Nasser Kanani dans un post sur son compte Twitter. Maintenant, une petite partie des faits liés à la nature belliciste, agressive et mensongère de la politique étrangère du régime américain est révélée par Robert F. Kennedy Jr., candidat à la présidentielle américaine. La véracité des propos du du leader de la révolution islamique devient de plus en plus claire, propos selon lesquels la défense par les États-Unis des droits de l'homme en faveur des nations et des opprimés du monde nous fait pleurer. Pour l'humanité, il n'y a pas de plus grande tragédie que le fait que des concepts et des valeurs humaines soient instrumentalisés par ces méchants politiciens, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour la 16e semaine consécutive, des centaines de milliers de personnes ont protesté contre la réforme judiciaire du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils étaient des centaines de milliers à avoir envahi les rues à travers les territoires occupés samedi 22 avril pour la 16e semaine consécutive en guise de protestation contre les réformes judiciaires du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'un de ces grands rassemblements de samedi s'est tenu dans le centre de Tel Aviv, où une foule immense s'est rassemblée pour exprimer son opposition au projet impopulaire du premier ministre du régime sioniste. La manifestation de Tel Aviv a précédé une autre manifestation de masse prévue dimanche dans cette ville côtière pour coïncider avec un discours de Netanyahou à l'Assemblée générale des fédérations juives d'Amérique du Nord. Plusieurs pays, dont les États-Unis, évacuent leurs citoyens et leur personnel diplomatique du Soudan alors que des combats meurtriers entre factions militaires rivales dans ce pays africain entrent dans leur deuxième semaine. Les États-Unis ont déclaré avoir évacué une centaine de membres du personnel de l'ambassade de la capitale soudanaise, Khartoum. La France a également lancé un processus d'évacuation de la nation touchée par la crise. Les Pays-Bas ont aussi rejoint un effort international pour évacuer leurs citoyens. Auparavant, l'Arabie saoudite avait évacué plus de 150 personnes, dont des ressortissants d'autres pays. Ceci après une trêve de 3 jours promise pour marquer la fête musulmane de Eid al-Fitr, brisée, les factions rivales ayant repris les combats. Les affrontements ont éclaté dans la capitale et dans d'autres villes la semaine dernière, après une période de tension autour de l'intégration prévue d'un groupe paramilitaire connu sous le nom des forces de soutien rapide dans l'armée régulière du Soudan. Plus de 100 organisations de défense des droits de l'homme et des droits civiques ont mis en garde les Nations Unies contre l'utilisation d'une définition de l'antisémitisme qui pourrait être exploitée pour restreindre la critique de l'occupation israélienne et saper le soutien aux droits des Palestiniens. La lettre, signée par des groupes tels qu'Amnesty International et Human Rights Watch, a exprimé son ferme soutien à l'engagement de l'Organisation des Nations Unies dans la lutte contre l'antisémitisme, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, et a soulevé des inquiétudes quant à la définition de l'idéologie de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La République islamique d'Iran dénonce les propos provocateurs du secrétaire d'État américain sur le programme nucléaire du pays et les considère comme une tentative de commercialiser des armes américaines par le biais d'iranophobie et de division dans la région. En réaction aux allégations provocatrices du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le programme nucléaire de la République islamique d'Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a confirmé ce dimanche 23 avril que le programme nucléaire de l'Iran était uniquement de nature défensive et dissuasive et n'est dirigé contre aucun autre pays. Le 20 avril, Blinken a prétendu dans un communiqué de presse que les États-Unis étaient fermement déterminés à perturber les activités d'approvisionnement militaire de l'Iran, ajoutant que Washington désignait des entités iraniennes et chinoises pour ce qu'il appelait leur implication dans un comportement déstabilisateur. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a dénoncé les propos provocateurs du secrétaire d'État américain sur le programme nucléaire de l'Iran, soulignant que ces propos ont été tenus dans le seul but de commercialiser des munitions fabriquées aux États-Unis par le biais du projet raté d'iranophobie et en créant division entre les pays de la région. Contrairement aux affirmations mal avisées du secrétaire d'État du régime américain, la République islamique d'Iran a toujours mis l'accent sur le dialogue régional, la collaboration et la coopération afin d'assurer la sécurité et les intérêts communs des pays de la région, sans ingérence étrangère, a-t-il réitéré. Il a estimé que les évolutions positives et progressives du Moyen-Orient reflètent cette politique iranienne. Le programme militaire de l'Iran est uniquement défensif et dissuasif et n'est dirigé contre aucun pays qui n'a l'intention d'attaquer l'Iran, a-t-il rassuré. Nasser Kanani a également considéré les actions imprudentes et erronées des États-Unis au fil des décennies comme une source d'insécurité, d'instabilité et de provocation à la guerre au sein des pays de la région. Kanani a finalement préconisé à l'administration américaine de mettre fin à ses positions erronées, indiscrètes et irresponsables sur les relations intérieures des pays de la région et de laisser le processus de stabilité et de calme croissant suivre son cours grâce à la coopération et à l'engagement des pays de la région. Les experts et les ingénieurs militaires iraniens ont réalisé ces dernières années des percées remarquables dans la fabrication d'une large gamme d'équipements de fabrication nationale, rendant les forces armées autosuffisantes. Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n'hésitera pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance de missiles, qui sont entièrement destinées à la défense, et que les capacités de défense de la République islamique d'Iran ne seront jamais ouvertes aux négociations. En réaction au plan funeste des ennemis qui cherchent à remettre en question le programme de missiles iranien, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a appelé à plusieurs reprises à redoubler d'efforts pour maintenir et pour renforcer les capacités de défense de la République islamique d'Iran.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le bilan s'alourdit au Soudan en 2 jours, presque 100 civils tués, mais également 3 humanitaires ont été tués, ce qui a stoppé naturellement l'aide alimentaire et humanitaire dans ce pays déjà en très difficulté. Alors, les combats opposent, bien sûr, comme vous le savez, l'armée aux paramilitaires pour le contrôle du pays. Et malgré de nombreux appels au cessez-le-feu par beaucoup de pays, dont l'Iran, les négociations semblent impossibles car les deux parties disent vouloir aller jusqu'au bout et refusent naturellement tout dialogue. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le bilan s'alourdit au Soudan. Au moins 56 civils ont été tués depuis le début des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, FSR, qui cherchent à contrôler le pays. Après un samedi de combats à Khartoum, la capitale du Soudan s'est réveillée dimanche matin sous les explosions. Les combats opposant l'armée aux paramilitaires pour le contrôle du pays ont fait au moins 56 morts parmi les civils et des dizaines parmi les forces de sécurité, rapporte le comité central des médecins soudanais cité par l'AFP. Le comité a également annoncé avoir décompté quelques 600 blessés, notamment parmi les forces de sécurité. Mais en raison de difficultés de déplacement liées aux affrontements, les nombreuses victimes ne peuvent pas être transférées vers les hôpitaux. Un décompte diffusé plus tôt dans un communiqué du syndicat des médecins, une autre organisation avait fait état de 27 personnes tuées, dont 2 à l'aéroport de la capitale, Khartoum, et de 170 blessés. Toutes les journées, les appels au cessez-le-feu se sont multipliés. L'ONU, Washington, Moscou, Téhéran, Paris, Rome, Riyad, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne, l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, tous ont demandé l'arrêt des combats. En vain, en fin de journée, l'armée soudanaise a même demandé à la population de rester chez elle, car elle poursuivait ses frappes aériennes contre les bases des paramilitaires. Les forces de soutien rapide FSR de Mohamed Hamdan Daglo, des milliers d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs de l'armée, ont déclaré contrôler la résidence présidentielle, l'aéroport et d'autres infrastructures clés. Si l'armée dément la prise de l'aéroport, elle reconnaît que les forces paramilitaires ont incendié des avions civils, dont un de la Saudi Airlines, ce que la compagnie a confirmé. Face au refus de l'arrêt des combats, la Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence dimanche sur le Soudan à la demande du Caire, où elle siège, et de Riyad, deux grands alliés de l'armée soudanaise. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a de son côté appelé les deux belligérants, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le patron des paramilitaires Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeddi, mais aussi le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, pour réclamer un arrêt immédiat de la violence. Mais le dialogue s'annonce compliqué. Sur la chaîne Al Jazeera, le commandant Hemeti s'est dit inflexible et a affirmé que les FSR ne s'arrêteront pas avant d'avoir pris le contrôle de l'ensemble des bases militaires. Le général Burhan se fait plus discret. Par un communiqué, il a annoncé avoir été surpris à 9h du matin par une attaque de son QG par les FSR, son ancien meilleur allié, que l'armée qualifie désormais de milice soutenue par l'étranger pour mener sa trahison.
Eh bien voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat et nous parlons du Soudan à présent. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos 2 chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à votre équipe et à mon collègue. C'est un plaisir de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous, monsieur Luc Michel. Un grand bonjour à monsieur Pierre Claver Caudeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau à Douala depuis Cameroun. Monsieur Caudeau, bonjour. Tout à fait. Je vais vous demander de parler un petit peu plus fort. Ma première question va s'adresser à monsieur Luc Michel depuis Bruxelles. Alors bien sûr, les combats opposent l'armée aux paramilitaires pour le contrôle du pays. Mais d'après vous, monsieur Michel, à qui profite cette déstabilisation de ce pays ?
Écoutez, le Soudan, c'est un pays qui est sous déstabilisation depuis le début des années 1960, où les Américains et les Israéliens ont entraîné la sécession du Sud-Soudan en 2011. Mais depuis 2019, les choses se sont encore compliquées, puisque les factions qui s'opposent, c'est une armée qui est de tendance pro-russe à des factions pro-américaines. C'est cela qui continue aujourd'hui avec l'affrontement entre l'armée et les forces d'intervention rapide. C'est le malheur d'un pays lorsqu'il est saisi par la déstabilisation occidentale.
Oui, tout à fait. Monsieur Pierre Claver Caudeau, vous êtes avec nous depuis Cameroun. Est-ce que vous partagez l'avis de monsieur Luc Michel et à qui profite cette déstabilisation, un pays qui est à une très mauvaise chance? Monsieur Pierre Caudeau, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Oui, allez-y, cette déstabilisation de ce pays, à qui profite à votre avis? Ou bien c'est une guerre intérieure entre l'armée et paramilitaires?
Non, vous ne pouvez pas parler d'une guerre intérieure, ainsi que de la situation après. Il faut que vous remontez l'histoire,
malheureusement, notre liaison avec M. Caudeau a été coupée depuis Cameroun. M. Luc Michel, je sais que le son n'était pas très bon, mais vous avez parlé donc de la volonté de certains pays occidentaux de déstabiliser le Soudan et pourquoi pas les voisins. Alors pourquoi s'en prendre aux civils, tout simplement, même aux humanitaires? On a tué donc 3 humanitaires, ce qui a stoppé l'acheminement de l'aide humanitaire et alimentaire à ce pays déjà en très, très difficulté. Que pensez-vous?
Depuis 2019, les forces pro-américaines sont en perte de vitesse. L'ancien premier ministre soudanais Abdallah, donc, qui est un agent américain, membre de l'Atlantic Council, a été mis de côté. Les Occidentaux ont intérêt à impliquer les Occidentaux et à impliquer toutes les forces occidentales de façon à susciter un désastre humanitaire.
Un désastre humanitaire, M. Luc Michel, et donc s'en prendre tout simplement aux civils et tuer en 2 jours 100 civils. Et donc, malgré de nombreux appels par beaucoup de pays, dont l'Iran, donc au cessez-le-feu, aucune réponse et le dialogue semble impossible. Pourquoi?
Tout simplement parce que les Occidentaux ont créé des conditions de blocage qui font qu'il y a 2 clans dont la survie politique est dépendante de leur victoire. Si les Occidentaux en perdent la partie, l'enjeu, c'est une base navale russe à Port-Soudan à l'entrée de la mer Rouge, ce qu'ont garanti les généraux soudanais à la Russie. Les Occidentaux ne peuvent donc pas l'accepter. Soudan est le plus grand état de la Corne de l'Afrique. De la déstabilisation du Soudan dépend la déstabilisation de l'Égypte, de la Libye, mais surtout de l'Éthiopie.
Pierre Claver Codo, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie? Monsieur Codo, est-ce que vous nous entendez?
J'entends.
Oui, est-ce que vous avez entendu les propos de Monsieur Luc Michel quand il a parlé de la volonté de certains pays de déstabiliser ce pays? Est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Bien entendu, je le disais lors de ma précédente intervention, la situation du côté du Soudan n'est pas une situation qui relève des conséquences internes et davantage l'influence des puissances étrangères sur la politique de ce pays, qui, comme vous le savez, a à peu près l'objet d'une déstabilisation majeure qui a été censurée par le sens de la partition avec la situation du Soudan. Et ceci a été motivé par la volonté de l'État de faire son place sur les trois ressources naturelles par lesquelles le pétrole s'en regorge sur la partie sud du Soudan aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous aller des contre partout où vous avez en Afrique, ou alors dans le monde, on pourra se lever de l'ordinateur de la situation qui fait que vous avez été utilisé dans des palmois et des caractéristiques exactes. Les relations antiques et l'Occident africain avec le Soudan, ou alors avec le Soudan, parce que là, on l'a vu la Syrie, on l'a également vu avec les Irans, l'État de l'Asie intérieure, c'est l'Iran, par exemple, où il y a des questions dans le gouvernement qui sont inévitables, il n'y a pas très longtemps. Vous comprenez donc la situation, c'est beau, depuis quelques jours, côté de la Soudan, c'est pas le la politique n'est pas du tout une situation politique, pas des querelles universitaires, mais plutôt instrumentalisée par des intérêts étrangers avec pour l'aide de l'État, les États-Unis, la France, derrière les États-Unis en Paris. Je pense que l'Union de la France a raison en la suivant de cette situation, pas de situation par des intérêts, par la volonté de cette fameuse de la France à faire face à des ressources naturelles et mettre la première patronatique.
Pierre Claver Codo, pourquoi, d'après vous, les négociations sont impossibles et les deux parties, même qu'une partie donc, qui fait partie du gouvernement, refusent tout dialogue et se disent donc prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'où on va continuer, jusqu'au massacre général, afin qu'on arrive à une table de négociation.
Je pense que les négociations sont difficiles, mais je ne pense pas que le temps soit impossible. Je ne pense pas dans le contexte actuel, vous savez. On a quand même à faire face, on a une force spéciale, c'est face à une armée régulière, une force spéciale qui est une expertise avérée en matière opérationnelle, une force régulière qui également exerce des équipements. Or, quand j'ai vu la situation de négociation, il faudrait qu'on se connaisse avec les aptitudes des uns et des autres. Mais pour le cas des faits, je pense que juste là, ce n'est pas encore le cas, mais il y a quand même, même d'ailleurs, que nous assistons simplement à une transition qui conclut l'opération spéciale russe en Ukraine sur le territoire africain ou exactement. Parce que comme j'ai parlé du président tantôt, il y a des États-Unis qui, avec des pays comme la France, qui viennent à ne pas lâcher les baskets à l'Afrique, à pour continuer à tirer leur. Alors, enfin, il y a la Russie qui voulait aider les pays africains à occuper leur souveraineté. Et quand vous voyez la configuration des populations de l'Occident, vous avez quand même, en général, le commandant des forces spéciales, qui est, tout le monde le sait, en Russie, pendant que le commandant de la régulière est en face de la France fatale de l'Occident occidental. Alors, du fait que cela, à la rigueur, s'il n'y a pas de d'après une constitution dans le temps, c'est-à-dire l'un vassal de la capitale et chacun des pays de l'autre, avec son lot de morts et de pertes en vie humaine à la justice des civils. La justice de ce grand pays, le Soudan, vers la pauvreté.
Absolument. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir? Tout à l'heure, vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait que pour déstabiliser le Soudan, il faut avant tout déstabiliser l'Égypte, mais surtout l'Éthiopie. Est-ce que vous voulez bien développer cette question, je vous prie?
Écoutez, c'est une déstabilisation régionale qui contrôle toute la Corne de l'Afrique. Dans la dernière décennie de la guerre froide, la Corne de l'Afrique était l'enjeu de la guerre froide en Afrique. C'est là qu'étaient les principaux alliés de l'Union soviétique. L'Éthiopie, la Somalie, bien entendu, Maréchal Siad Barré. Depuis, les Occidentaux ont pris des choses en main. Ils ont en particulier organisé 60 ans de déstabilisation du Sud-Soudan. Lorsqu'on a poussé des factions soudanaises dans les conditions de la guerre civile, on ne peut pas prétendre aujourd'hui les amener à la table de négociation.
Oui, enfin, l'ironie, M. Luc Michel, c'est que les deux parties, les chefs des deux parties, c'est-à-dire l'armée et les paramilitaires, étaient déjà mis à la table de négociations et étaient bien d'accord pour donc contrôler le pays. Et d'un coup, ils s'en prennent aux civils et décident donc de faire une guerre civile sans merci pour contrôler tout le pays. Pourquoi ça?
Parce que la condition de la paix civile, c'est une condition qui est imposée par les Américains. Elle ne correspond pas aux données soudanaises. Les Américains organisent des forces civiles de façon à pousser une transition qui leur soit favorable. Voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, les gens qui représentent le pouvoir réel, c'est-à-dire d'un côté l'armée, de l'autre côté la force d'intégration rapide, qui voudrait s'intégrer dans l'armée, mais que les militaires soudanais ne veulent pas, évidemment, n'ont pas tendance à tendre boucher vers cette pacification civile.
Monsieur Luc Michel, comment vous prévoyez donc les jours et peut-être les semaines à venir? Est-ce que ces massacres vont continuer? Car, on a vu que donc les humanitaires étaient également tués, ce qui était une journée très sombre pour les Nations Unies, et ce qui a stoppé, bien sûr, l'acheminement. Donc ça va encore aggraver les choses, et surtout que pour les couloirs humanitaires, les deux parties ne coopèrent pas beaucoup. Donc comment ça va continuer à votre avis? Est-ce que ça va cesser un jour ou l'autre?
Je pense que ça n'évoluera pas dans un bon sens. Le but des Occidentaux, c'est d'isoler les militaires soudanais qui ont le malheur d'être pro-russes, et donc c'est de les présenter comme les responsables d'une catastrophe humanitaire. Dès lors, les attaques contre les humanitaires vont se poursuivre, puisqu'il s'agit intégralement d'organisations occidentales.
Absolument. Monsieur Pierre Claver-Codeau, à votre avis, donc, les jours et les semaines à venir, est-ce que ça sera du bon sens ou bien un dialogue, ou tout bien au contraire, ça sera un massacre général, comme on est témoin ces deux, trois jours?
Donc, les deux militaires, les deux commandants des forces militaires pour motiver éventuellement le dialogue, les négociations. Au regard du influence des États-Unis et des pays de l'OTAN sur l'aide des militaires, est-ce que revenir à la paix les arrange ou ne les arrange pas? Vous vous rappelez, quand il était à l'entrée, il y a des petits milices au chaos. Je crois, c'est vraiment pense qu'il ne pourra pas intervenir dans l'implication d'une institution, d'un président politique et d'un autre pays qui sont pour la souveraineté de l'Afrique. Mais également, il aurait fallu que la Guinée il aurait fallu que l'Union africaine, mais malheureusement, c'est le plan africain national qui comporte aussi un appareil de puissance, ce qui complique d'avoir fait la tête à conflit pareil, mais dégénérer, comme le général Michel, dégénérer et déstabiliser toute la sous-région de l'Afrique centrale, par là, de l'Afrique centrale, à la côte de l'Afrique. Vous savez, un pays comme le Tchad et l'Algérie et le Soudan ont des liens historiques très, très, très étroits. Et ce qui se passe du Soudan, très facilement, avoir un effet d'entraînement du Tchad.
Merci. Ma dernière question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, le rôle du peuple, car on a vu dans la guerre civile, dans les décennies dernières, qu'avec le bon sens et de l'intelligence, le peuple a su donc gérer et arrêter la guerre civile. Est-ce que cette fois, il y aura un rôle pour le peuple donc, d'arrêter donc, ces combats ou bien au contraire, ça sera donc aucune chose donc, réalisée par le peuple et ils vont juste subir de graves conséquences?
Je ne pense pas, et contrairement à vous, je ne pense pas que le peuple a eu un rôle positif. Les masses soudanaises ont été instrumentalisées par les Américains, que ce soit la sécession du Sud-Soudan, la guerre civile du Sud-Soudan, ou maintenant les sécessions du Darfour, du Kordofan et du Nil Blanc. Systématiquement, les Occidentaux exploitent des foules en détresse pour servir leurs intérêts géopolitiques. Je ne vois donc pas le peuple jouer un rôle positif, d'autant plus que les grandes organisations civiles sont toutes d'obédience américaine.
C'est fort dommage. En tout cas, merci, M. Luc Michel. Je rappelle que vous êtes géopoliticien et vous nous avez donc répondu depuis Bruxelles. Et un grand merci à M. Pierre Claver-Codeau. Je rappelle qu'il est éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau à Douala, depuis Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique. En Égypte, le secteur minier dominé par l'exploitation du métal jaune, plus grande mine d'or du pays, Soukhari, a permis à son propriétaire Sentamine de générer 174,6 millions de dollars au premier trimestre 2022 grâce à la vente de 92 559 onces. En Égypte, la mine d'or Soukhari a livré 105 875 onces au premier trimestre 2023, en hausse de 14,4% en glissement annuel. C'est une annonce faite le 20 avril par son propriétaire Sentamine, qui précise que ses revenus ont en conséquence progressé de 18% par rapport à la même période en 2022 pour atteindre 205 millions de dollars. En dehors de l'augmentation de 16% des quantités d'or vendues, Sentamine a également pu compter sur un prix de l'or plus élevé, soit 1902 dollars l'once contre 1883 dollars l'once au premier trimestre 2022. La compagnie minière reste par ailleurs en bonne voie pour atteindre son objectif de production annuelle en 2023. Nos opérations minières continuent de bénéficier à la fois d'une flexibilité accrue dans la mine à ciel ouvert grâce à l'accélération de la stratégie d'extraction des déchets et aux gains de productivité opérationnelle et d'une amélioration de la productivité et des performances de la mine souterraine, a commenté le PDG Martin Borkan. Alors que le service de la dette siphonne 63% des recettes fiscales du pays, c'est-à-dire le Kenya, les fonds qui devraient être élevés grâce à l'opération serviront à refinancer un eurobond de 2 milliards de dollars émis en 2014. Le gouvernement kényan a annoncé mercredi 19 avril qu'il allait émettre un eurobond durant l'exercice 2023-2024 pour refinancer 2 milliards de dollars d'euro-obligations arrivant à échéance en juin 2024. Le gouvernement de la République du Kenya, par l'intermédiaire de son trésor national, envisage d'accéder aux marchés internationaux des capitaux avant la fin de l'année fiscale 2023-24 pour émettre des obligations souveraines, a précisé le trésor dans un appel à manifestation d'intérêt pour le choix des arrangeurs du futur eurobond. Les fonds qui seront levés grâce à cette émission serviront à refinancer un eurobond de 2 milliards de dollars qui a été émis en 2014. Le taux d'intérêt appliqué à cet eurobond d'une échéance de 10 ans s'élève à 6,875% par an. La hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale et la dépréciation du shilling kényan ont été à l'origine d'une forte augmentation du coût du service de la dette qui siphonne environ 63% des recettes fiscales du pays. La dette publique globale du Kenya, qui s'est établie à 68 milliards de dollars en janvier 2023, devrait atteindre 69,7 milliards en juin prochain, alors que le gouvernement kényan a été obligé récemment de retarder le versement des salaires des fonctionnaires en raison d'une grave crise de liquidité. Les directeurs de l'Afrique du Fonds monétaire international a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le pays d'Afrique d'Est demande la restructuration de sa dette. Le gouvernement et les opérateurs télécoms seychellois investissent dans le renforcement de la fibre optique dans le pays. La société de télécommunications seychelloise Intellivision a connecté les Seychelles au câble sous-marin à fibre optique de Africa en partenariat avec la société britannique Vodafone. L'infrastructure a atterri dans le pays le jeudi 20 avril, selon l'agence nationale de presse. Elle devrait notamment permettre de fournir à la population des services de connectivité améliorés à des prix réduits. C'est en juin 2022 qu'Intellivision a signé un accord de partenariat avec Vodafone pour l'introduction du câble de Africa aux Seychelles. La société britannique étant membre du consortium à l'origine de la construction de cette infrastructure de 45 000 km de long. Prévue pour durer 15 ans, la coopération entre les deux opérateurs est soutenue par la Société financière internationale IFC qui finance le projet à hauteur de 20 millions USD. De Africa vient renforcer l'infrastructure télécom à haut débit des Seychelles, dont il est le troisième câble sous-marin international. Le pays a longtemps dépendu du câble seychelliste Africa System auquel il s'est connecté en 2011. Le pays s'est ensuite connecté au Pakistan East Africa Cable Express en mars 2022 avec un investissement total de 20 millions USD. Ces différents investissements traduisent les efforts consentis par le gouvernement seychellois pour accélérer la transformation numérique. Avec ce nouveau câble, nous pourrons fixer notre barre de prix actuellement. Nous devons nous approvisionner auprès du câble sous-marin actuel et nous ne pouvons donc pas contrôler les prix. Nous pensons que l'installation de notre propre câble peut révolutionner la manière dont l'Internet est utilisé dans le pays aujourd'hui, annoncé le directeur général par intérim d'Intellivision. Depuis la cessation des activités de Air Madagascar, l'exécutif malgache a affiché une forte volonté de maintenir active une compagnie aérienne nationale afin de soutenir le développement du secteur touristique. Madagascar Airlines a obtenu le 17 avril son certificat de transport aérien ainsi que sa licence d'exploitation et a annoncé vouloir exploiter ses agréments pour atteindre la rentabilité d'ici 3 ans. Créée en 2021 en remplacement de Air Madagascar dont elle exploite les actifs depuis quelques mois via un contrat de location-gérance, la compagnie va poursuivre la desserte de l'intérieur du pays avec ses 6 appareils ATR et renforcer sa flotte pour augmenter ses vols régionaux. Selon Thierry de Balleul, son DG, le transporteur envisage des partenariats avec d'autres compagnies internationales pour l'offre longue courrier selon le modèle de partage de code. On s'efforcera d'étudier toutes les possibilités pour que d'ici 3 ans, la compagnie puisse s'autofinancer pour ensuite avoir la capacité de produire des retours sur les éventuels investisseurs, partenaires ou actionnaires, a-t-il expliqué. Le gouvernement malgache est très impliqué dans le maintien d'un transporteur aérien local pour soutenir le secteur touristique dont les apports en devises pour l'économie nationale sont substantiels. Pour rappel, Air Madagascar avait déposé bilan en octobre 2021 déclarant des pertes cumulées d'environ 80 millions USD. Bénéfices pour les exploitants, notamment ceux de cacao et de bananes, très nombreux dans les zones rurales de la région CEMAC ainsi que de riz. Profitant d'une augmentation de la demande mondiale, les prix des principaux produits agricoles exportés par la CEMAC ont progressé de 7,3% au premier trimestre 2023. Cette embellie n'a cependant pas suffi à amortir la baisse de 9,9% de l'indice global des produits de base exportés selon les données de la BEAC. La banane, le cacao et le riz ont profité de la conjoncture favorable avec des hausses respectives de 11,7%, 10,9% et 9,8% de leurs coûts. Après avoir chuté de 7,2% à 8,3% au trimestre précédent, les prix de l'huile de palme et du caoutchouc se sont nettement redressés en lien avec la reprise de la demande chinoise. Premier importateur mondial d'huile de palme et de caoutchouc, souligne l'institution bancaire. Dans le panier des produits ciblés par l'ICCPB, seuls le coton et le tabac ont vu leur prix se détériorer. Rappelons que l'ICCPB est un indice fondé sur les cours de 20 produits de base exportés par les pays de la CEMAC, représentant 90% des valeurs des exportations de cette communauté. Le panier se décompose en 5 grandes catégories, produits énergétiques, métaux et minéraux, produits forestiers, produits agricoles et produits de la pêche.